lui. À Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 18 octobre 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Le parquet guinéen a requis 5 ans de prison ferme contre les initiateurs de la contestation. Les pluies torrentielles dans le nord-est du Ghana ont fait au moins 28 morts. Feu vert de l'Agence européenne du médicament pour commercialiser le vaccin contre Ebola utilisé en RDC. Résultat partiel des élections au Mozambique, Philippe Nyusi obtient près de 75% des suffrages. Osufo Momade est crédité à 20% des voix. En Afghanistan, 62 morts et 33 blessés dans une attaque contre une mosquée. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. La commission électorale mozambicaine a publié des résultats très partiels des élections présidentielles et législatives. Après dépouillement de 6%, le président Philippe Nyusi est crédité de près de 75% des suffrages. Il devance largement son concurrent Osufo Momade de la Renamo, crédité à 20% des voix. Dans un communiqué, l'ambassade des États-Unis au Mozambique a émis d'importantes inquiétudes liées à des irrégularités qui pourraient avoir des conséquences sur la perception de l'intégrité du processus électoral. En Guinée, le procès des membres du Front national pour la défense de la Constitution se poursuit à Conakry. Ils encourent jusqu'à 5 ans de prison. Ils sont accusés de manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles à l'ordre public. Zakaria Camara.
Dans sa réquisition, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine a parlé de propos graves. Sidi Souleymane Diaye a utilisé l'article 561 du Code pénal après avoir mentionné le passage dans le communiqué du FNDC demandant aux compagnies minières, banques et stations-service de suspendre toute activité pendant les manifestations. À la barre, l'artiste Bill Dessam s'est défendu en rappelant que le président Alpha Condé, le 24 mars, au siège de son parti, avait appelé à l'affrontement. Selon l'opposant, le message du communiqué visé par le procureur était une façon de rendre le chef de l'État guinéen responsable des violences. Le procureur a requis 5 ans d'emprisonnement et une amende de 2 millions de francs guinéens. Dans un communiqué publié mercredi, les représentants des Nations Unies, de la CEDEAO, de l'Union européenne notent qu'il est indispensable d'organiser les élections législatives et présidentielles libres, crédibles et transparentes dans le respect du cadre constitutionnel, dans un environnement apaisé. Une éventuelle libération rapide des personnes détenues de façon préventive serait de nature à aider à l'apaisement, conseille les missions diplomatiques en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
À l'ouverture du congrès de l'ANC au Togo, l'opposant Jean-Pierre Fabre a invité le président Fornia Singbe à ne pas briguer un quatrième mandat pour éviter des tensions sociopolitiques. En mai dernier, les députés ont voté une révision constitutionnelle qui permet au président de se représenter en 2020 et 2025 et de bénéficier d'une immunité à vie pour les actes posés pendant les mandats présidentiels. Monsieur Fabre devrait être investi samedi pour représenter son parti à la présidentielle. Au moins 28 personnes sont mortes en raison des pluies torrentielles qui s'abattent depuis une semaine dans le nord-est du Ghana, selon les services de secours. 640 personnes forcées de quitter leur foyer ont été relogées car 286 maisons en torchis se sont effondrées, ajoute l'organisme de gestion des catastrophes. Le service météorologique indique que les pluies vont durer jusqu'à début novembre. 46 personnes ont été tuées dans des inondations cette année au Ghana. Le vaccin contre Ebola, déjà utilisé en urgence en RDC, a reçu l'approbation de l'Agence européenne du médicament. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Après ce feu vert de l'Agence européenne du médicament, c'est maintenant à la Commission européenne de se prononcer sur la mise sur le marché du vaccin sous le nom commercial d'Ervebo. Cette annonce est une étape importante, s'est félicité l'OMS, dont le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a salué un triomphe pour la santé publique. D'après l'OMS, le test clinique a débuté durant l'épidémie en 2015 et a été mené en Guinée. Selon les autorités congolaises, ce nouveau vaccin, fabriqué par la filiale belge de Johnson & Johnson, va être utilisé début novembre dans les provinces du nord et sud Kivu et en Ituri. Depuis le début de l'épidémie en RDC, le virus Ebola a fait environ 2150 morts. Selon l'OMS, plus de 236 000 personnes ont été vaccinées avec le premier vaccin fabriqué par le laboratoire pharmaceutique Merck.
L'épidémie d'Ebola en cours en RDC reste une urgence sanitaire mondiale, a déclaré l'OMS à l'issue d'une réunion de son comité d'urgence. L'OMS, qui avait déclaré l'épidémie d'urgence sanitaire mondiale le 17 juillet, était tenue de réévaluer la situation dans un délai de 3 mois. Et la Libye, en Libye, les forces du maréchal Haftar ont mené des raids aériens contre des sites militaires dans un secteur contrôlé par les forces loyales au gouvernement d'Union nationale à Misrata, a indiqué Ahmad Al-Mismari, porte-parole des forces pro-Haftar. Les frappes ont provoqué des explosions importantes quand des roquettes et munitions ont été touchées, a-t-il ajouté.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Attaque meurtrière dans l'est de l'Afghanistan. Au moins 62 personnes ont péri lors d'un attentat dans une mosquée pendant la prière du vendredi. Le point avec Arzouma Compaoré.
L'attaque a été menée avec des explosifs qui avaient été placés à l'intérieur de la mosquée, dans le village de Jaudara, dans le district d'Askamina. La mosquée, dont le toit s'est effondré selon plusieurs sources, pouvait tenir jusqu'à 700 fidèles, mais en comptait 350 au moment de l'explosion, a dit Omar Gorzang, un habitant de ce village. L'attaque n'a pas été revendiquée. Les talibans et le groupe État islamique qui s'affrontent dans la région sont tous deux implantés dans la province de Nangarhar, frontalière du Pakistan. Les talibans ont condamné cette attaque qu'ils ont mise sur le compte des forces gouvernementales et du groupe État islamique. Entre le 1er juillet et le 30 septembre, la mission de l'ONU en Afghanistan a recensé 1174 civils tués et 3139 blessés, d'après son rapport trimestriel.
Lors d'une conférence de presse, le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti que l'offensive en Syrie reprendrait dès mardi soir si les forces kurdes ne se retirent pas de ce secteur comme prévu. Au terme de cet accord de trêve arraché hier par le vice-président américain Mike Pence lors d'une visite à Ankara, la Turquie a accepté de suspendre pour 5 jours son offensive lancée le 9 octobre et d'y mettre fin si les milices kurdes se retirent pendant cette période des zones frontalières. Les États-Unis poursuivent leur retrait du nord de la Syrie et aucun soldat américain n'aidera à faire respecter la zone de sécurité, a prévenu le ministre américain de la Défense Mark Esper, tout en précisant que les forces américaines resteraient en contact avec la Turquie et les combattants kurdes. Les États-Unis ont imposé des sanctions douanières contre des produits européens, provoquant la colère de Bruxelles qui promet de riposter. Eric Manirakiza nous en dit plus.
Cette hausse des droits de douane américains sur des produits européens pour une valeur de 7,5 milliards de dollars est entrée en vigueur de ce matin. Elle est intervenue 4 jours après le feu vert définitif de l'Organisation mondiale du commerce à Washington d'imposer des sanctions à l'Union européenne en représailles aux subventions accordées à l'avionneur Airbus. Regrettant cette décision, la commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström a promis des représailles. L'Union européenne devrait à son tour être autorisée l'an prochain par l'OMC à imposer des sanctions douanières contre les États-Unis accusés d'avoir subventionné Boeing. Le conflit des deux avionneurs Airbus et Boeing n'est qu'un des nombreux problèmes qui ont alimenté les tensions transatlantiques. Les vins européens sont également dans le collimateur de l'administration Trump avec une taxe de 25%. Le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a dénoncé un geste agressif et qualifié de profondément injuste les sanctions qui touchent le vin français. Le dirigeant américain a déjà imposé des droits de douane plus élevés sur l'acier et l'aluminium en provenance de l'Union européenne, tout en laissant planer la menace de faire de même pour les voitures.
La France, l'Italie et l'Allemagne préparent des mesures pour interdire en Europe la crypto-monnaie de Facebook qui doit entrer en service l'an prochain. La Libra n'est pas la bienvenue sur le territoire européen. C'est notre souveraineté qui est en jeu, a annoncé le ministre français de l'économie Bruno Le Maire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, l'actualité économique présentée par Nanit Talani dans La Minute Éco.
Le Zimbabwe a annulé un accord conclu avec le groupe sud-africain Transnet censé recapitaliser ses chemins de fer sous prétexte que Transnet n'a pas fourni de plan de financement viable. En 2017, Transnet et un groupe d'investisseurs de la diaspora zimbabwéenne ont remporté l'appel d'offres pour la recapitalisation et l'entreprise ferroviaire zimbabwéenne en difficulté financière avec 400 millions de dollars. Les autorités lanceront un nouvel appel d'offres pour la recapitalisation de l'entreprise ferroviaire. Le président kényan refuse de signer le budget 2019-2020 à moins que les législateurs ne lèvent la limite sur les taux des prêts commerciaux. Ils ont été plafonnés à 4% de plus que le taux de référence de la Banque centrale kényane qui est de 9%. Selon le gouvernement et les banques, cette décision affaiblit l'économie et freine la croissance du crédit pour le secteur privé car les banques commerciales suppriment des millions de clients à faible revenu. Pour terminer cette minute éco, l'Afrique du Sud va augmenter sa production d'électricité à base de charbon dans les 10 prochaines années pour répondre à la demande. Le charbon restera la principale source d'énergie avec une contribution de 59%, tandis que le reste de l'énergie sera produite par le nucléaire, le solaire, l'hydroélectrique, l'éolien et le gaz.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Dernier virage pour la qualification au CHAN 2020.
Oui, c'est un gros week-end sur le continent qui s'annonce avec les matchs retour du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2020. On connaîtra les 15 pays qui rejoindront le pays hôte, le Cameroun, pour la phase finale. Malgré sa victoire à l'aller, 4-1 sur le Nigeria, le Togo se veut méfiant quant au retour demain à Lagos. La Côte d'Ivoire reçoit le Niger avec 2 buts de retard. Petit avantage pour les étalons du Burkina qui jouent à Ouagadougou avec 1 but d'avance sur le Ghana. Idem pour le Sénégal qui se déplace à Conakry. Le Mali et la Mauritanie s'affrontent dimanche au stade Modibo Keïta de Bamako. À l'aller, Mauritaniens et Maliens ont fait un match nul de 0 but partout à Nouakchott. Le coach malien est confiant quant à la qualification de son équipe, Noum Diani.
Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que les joueurs qui sont là et sont capables de jouer ces matchs-là et de nous permettre de nous qualifier. C'est vrai, après, vous savez, c'est le football. Hein. Il peut arriver ce qu'il arrivera, mais je suis persuadé qu'on est en train quand même de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse gagner. La première des choses que nous avons fait, on a fait rentrer à peu près 9 joueurs qui sont venus compléter le groupe. Après, il y a eu des départs parmi les 9, où on a gardé 4 sous les 9. On est en train de récupérer aussi certains.
Noum Diané, coach du Mali au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. La République démocratique du Congo a une belle avance de 2 buts avant de recevoir la Centrafrique. À suivre aussi Congo-Guinée équatoriale après le 2-2 à l'aller à Malabo. Le Rwanda et le Soudan ne sont pas à l'abri malgré leur victoire 1-0 à l'extérieur, respectivement sur l'Éthiopie et la Tanzanie. Le match au sommet dans la zone nord oppose le Maroc à l'Algérie.
Amin Harit a été élu joueur du mois de septembre en Bundesliga.
Auteur de 4 réalisations en 3 apparitions dans le championnat allemand, le Marocain de 22 ans a été désigné joueur du mois de septembre. L'ancien joueur du FC Nantes a notamment signé un doublé à Paderborn, 2-1. Amin Harit compte 10 sélections avec les Lions de l'Atlas.
Le Classico Barça-Real a été reporté.
Oui, le Classico du 26 octobre entre le FC Barcelone et le Real Madrid, match de club le plus suivi au monde, a été reporté en raison des troubles en Catalogne. Le club catalan et son adversaire madrilène ont jusqu'à lundi pour se mettre d'accord sur la nouvelle date du Classico. Faute d'accord entre les clubs à cette date, la fédération prendra elle-même la décision. Mercredi, la Ligue de football professionnel, la Liga, avait demandé à la fédération que le premier Classico de la saison prévu au Camp Nou puisse se jouer à Madrid en raison des manifestations des indépendantistes mobilisées depuis 5 jours contre les peines de prison infligées lundi à 9 de leurs dirigeants pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. À présent, les dossiers du jour. Des séparatistes des régions anglophones au Cameroun ont ouvert des écoles communautaires pour remplacer les écoles publiques fermées depuis 3 ans. Le gouvernement exhorte les parents et les étudiants à rester à l'écart de ces écoles improvisées. Voici un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Nginikom, relaté par Lionel Gaïma.
Un combattant séparatiste s'adresse ainsi à des centaines de personnes dans le village anglophone de Nginikom. Il annonce un programme scolaire différent de celui du gouvernement central de Yaoundé.
Je demande à tout le monde de veiller à ce que tous les enfants fréquentent nos écoles communautaires, car l'éducation est un droit humain fondamental. Je demande à tous les Camerounais anglophones ayant envoyé leurs enfants suivre une éducation dans la zone francophone de revenir, car nous offrons l'éducation nécessaire pour développer nos localités et gagner notre indépendance.
La plupart des écoles des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont fermées depuis novembre 2016. Les enseignants et les avocats de ces régions avaient lancé une grève pour protester contre ce qu'ils qualifient de marginalisation des anglophones par la majorité francophone au Cameroun. Un an après, des combattants séparatistes ont pris les armes. Cette semaine, ils ont annoncé l'ouverture de 9 écoles communautaires. Ils disent que ces écoles opéreront dans les espaces publics vacants pendant qu'ils négocient pour occuper les bâtiments abandonnés des établissements appartenant à des confessions chrétiennes. Paul Joua, agriculteur de 37 ans, est heureux que ses enfants puissent aller à l'école, mais il voit des limites à cette solution.
Les écoles communautaires ne peuvent pas suffire pour les enfants. Ils devraient aussi essayer d'encourager les institutions privées à rouvrir leurs portes.
Les autorités camerounaises réaffirment que les écoles publiques sont protégées et sûres. Wilfried Wambang, responsable de l'éducation de base pour la région anglophone du Nord-Ouest, assure que le gouvernement a demandé aux familles d'envoyer leurs enfants uniquement dans les écoles publiques, privées ou religieuses, reconnues par le gouvernement, car, a-t-il dit, seules ces institutions disposent d'enseignants qualifiés.
Nous avons eu des réunions spécialement avec nos organisations d'éducation privée et laïque pour leur donner des instructions sur ce qu'elles doivent faire pour la reprise des cours. Nous leur conseillons de lancer une campagne agressive contre ces écoles séparatistes. D'ailleurs, nous avons eu une réunion avec le gouverneur qui nous a demandé de travailler étroitement avec les autorités villageoises.
Selon les Nations Unies, le conflit séparatiste a fait au moins 2000 morts et quelques 500 000 déplacé au Cameroun.
Jacques Aristide avec vous dans l'Amérique et vous tout à l'heure à 19h TU. Cette question, à quoi ressemble la vie des immigrés d'Afrique subsaharienne aux États-Unis? D'après une étude du Pew Research Center, les Africains établis légalement en Amérique ont le plus de chances de trouver un emploi que ceux qui ont opté pour l'Europe. Mais le rêve américain peut-il se transformer en cauchemar pour certains immigrés africains? Les États-Unis vous attirent-ils comme pays d'adoption? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et en direct au 001 202 205 26 33.
Les récentes découvertes de maisons de torture au Nigeria ont provoqué l'indignation du président. Mohamedou Buhari a promis des sanctions contre ces écoles islamiques qui abusent des jeunes en les enchaînant et commettant des violences sexuelles à leur encontre. Des activistes des droits humains et certains religieux sont sortis de leur silence pour dénoncer cette situation. Voici un reportage de Gilbert Tambin à Abuja.
La deuxième fois en un mois, la police a effectué des descentes dans des endroits où des centaines d'enfants étaient détenus dans des conditions déplorables dans les états de Kaduna et Katsina dans le nord-est. Les fondateurs de ces centres prétendaient tous enseigner le Coran et l'islam. Les militants des droits de l'homme et des responsables religieux au Nigeria ont découvert avec effroi des images de torture dans les vidéos publiées sur les réseaux sociaux et dans les médias. Hussein Zakaria est imam d'une mosquée à Abuja.
I feel terribly touched. I'm sad from inside to outside of my
Je suis terriblement touché et attristé par ce que j'ai vu. Les vidéos que j'ai regardées et les informations publiées sur ce qui s'est passé au Nigeria et particulièrement dans le Nord et dans les États islamiques. L'islam est réellement contre la torture.
It's really, really against torturing.
Les victimes sont des nationalités différentes. Elles ont été amenées par leurs parents pour apprendre le Coran. Mais pour Awal Moussa Rafsanjani, membre de la société civile, le problème n'est pas la nationalité des victimes. Il exige que le Nigeria applique les lois et pénalités sur les auteurs de tels crimes.
We have a lot of laws and policies that prohibit.
Nous avons beaucoup de lois et de dispositions qui interdisent les traitements inhumains et particulièrement la torture. Donc, tout ce que nous avons à faire est d'appliquer ces lois qui punissent les auteurs des crimes pareils. Et tous ceux qui seront coupables doivent faire face à la loi. Dans le cas contraire, beaucoup de Nigérians seront victimes de crimes similaires.
Otherwise, a lot of Nigerians have been subjected to this inhuman condition.
Près de 300 personnes ont été trouvées dans une école coranique à Daoura, dans l'état de Katsina, la ville natale du président Muhammadu Buhari. Le gouvernement affirme qu'il ne permettra plus l'existence de tels centres où des hommes et des femmes sont maltraités au nom de la religion. Le porte-parole du président Garba Shehu affirme qu'une proposition de loi est déjà au Parlement fédéral.
Je pense que quelque chose est déjà en cours à l'Assemblée nationale au moment même où je vous parle. Le président s'est exprimé sur ces problèmes il y a juste quelques jours. Le président soutient entièrement la révision de nos lois. Toutes les lois qui ont été adoptées pour lutter contre les violations des droits des enfants, des femmes et des Nigérians. Le président va apporter son soutien et ratifiera de telles législations pour qu'elles deviennent de loi du pays.
Le président Buhari a ordonné à la police d'identifier et de démanteler tous les centres où les droits humains sont bafoués dans tous les États de la Fédération nigériane. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique. Au Tchad, les pièces de monnaie deviennent de plus en plus rares à N'Djamena et même dans certaines régions du pays. Il est difficile pour un détenteur de billets de banque d'acheter un article et avoir en retour de petites pièces de monnaie, surtout les pièces allant de 25 à 100 francs CFA. Notre correspondant André Kodmajingar s'est penché sur cette problématique en cherchant à savoir pourquoi la petite monnaie est devenue si rare.
En N'Djamena, les pièces et les petites coupures de monnaie ne circulent pas. Quelques citoyens affirment à VOA Afrique que ce sont des casinos installés partout dans la ville qui absorbent les pièces. Un jeu de hasard qui consiste à introduire des pièces de 100 francs CFA dans une caisse alimentée au courant qui peuvent en contenir entre 30 à 40 000 francs CFA en pièces pour espérer gagner plus.
Surtout les enfants, ils jouent ce jeu et puis la monnaie, eux, ils ramassent. Et puis maintenant, le peuple tchadien en souffre. Le problème de rareté des monnaies, moi, je vois que c'est par rapport au jeu. Vulgairement, on appelle ça Yibib, parce que quand tu joues et que tu écoutes le son Yibib, là, c'est qu'ils t'ont bouffé. Mais quand tu écoutes, oh, tu as gagné, là, tu gagnes également.
Même les adultes poussés par le gain facile, ça donne également à ce jeu, comme en témoigne ce joueur qui requiert l'anonymat.
Je viens de mettre un 500 francs. Malheureusement, j'ai perdu les 500 francs. Si seulement j'avais la chance, je pouvais embaucher facilement 2000, 3000. Mais malheureusement, la chance n'a pas été de mon côté.
Ahmad Mahamat, responsable de la société de machines à sous, dénommée Galaxy Entertainment, reconnaît que la carence des pièces d'argent dans la ville de N'Djamena est dû en partie à l'apparition de machines à sous.
Moi, j'ai commencé à faire mes propres pièces avec le nom de mon entreprise. Il me donne 1000 francs CFA, je lui donne 10 pièces au nom de mon entreprise Galaxy. Mais effectivement, il y a des machines contenant des dizaines qui utilisent les 100 francs, 100 francs.
Le manque de pièces d'argent est un problème qui s'observe aussi dans d'autres pays, notamment le Cameroun et la RCA, selon Abbas Mohamed Touli, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale.
C'est quasiment des pièces de monnaie qui sont utilisées et qu'aujourd'hui, on
se rend compte que ces pièces également prennent d'autres destinations. Il y a un travail qui est en train de scanner un peu tous ces processus pour voir en quelle mesure nous allons amener justement à éviter que des signes monétaires soient distraits par ce type de choses et créer un assèchement sur le marché.
Pour le juriste Mbelassom Nadingar Ndou, cette situation joue négativement sur l'économie familiale.
Quand quelqu'un prévoit dépenser X francs, arriver dans une boutique, il se trouve qu'il est contraint d'acheter un second article ou bien dans un bar, on lui sert un avoir. Quand il revient 2-3 jours plus tard, on dit que non, le délai est expiré. Un délai qui se donne, on ne sait pas sur quelle base juridique. Dans tout pays, normalement, il y a ce qu'on appelle l'état gendarme. L'état gendarme doit être regardant par rapport aux flux financiers et par rapport au marché pour que des directives soient prises et puis surtout respectées.
La thésaurisation qui consiste à enfuir l'argent dans le sol contribue aussi à la rareté des pièces de change alors que la monnaie est faite pour être dans le circuit bancaire afin de booster l'économie du pays. André Kodmadingar Ndjamena, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, 2 millions d'habitants de la Californie ont retrouvé l'électricité dont ils ont été privés pendant une semaine de délestage préventif. Une mesure qui avait été mise en œuvre pour éviter les feux de forêt dévastateurs, les lignes à haute tension projetant parfois des étincelles qui enflamment la broussaille. Un reportage de Mike O'Sullivan, le récit est de Jacques Aristide.
Ayant pris la mesure du haut risque de feux de forêt, les compagnies d'électricité de la Californie avaient décidé de couper l'électricité dans le nord de l'État. Du coup, 700 000 ménages et entreprises se sont retrouvés temporairement dans le noir. La même chose s'est produite dans le sud de la Californie, où 24 000 usagers ont été privés d'électricité. L'environnement a changé, explique le professeur Séverin Borenstein de l'Université de Californie à Berkeley.
A large part of the problem is climate change.
Le problème résulte en grande partie du réchauffement climatique. Depuis un siècle, les lignes électriques provoquent des incendies généralement insignifiants. Ce qui a changé, ainsi que nous l'avons vu de façon horrible et catastrophique à Paradise, en Californie, c'est qu'elles peuvent maintenant provoquer le genre de conflagration massive qui a tué 85 personnes.
La compagnie Pacific Gas and Electric, dont les lignes électriques ont provoqué la tragédie de Paradise, a été vivement critiquée pour ses délestages préventifs. Certes, un système de caméras de surveillance, stations météo et de satellites fournit des données en temps réel, mais ils n'arrivent pas à détecter tous les problèmes. Don Daigle travaille pour la compagnie d'électricité Southern California Edison.
Au cours de 5 dernières années, 50 à 60% de feux liés à nos installations résultent des débris volants qui entrent en contact avec nos lignes. Ce n'est pas nécessairement une défaillance de notre système. Cela peut être des palmes ou autres végétaux ou même un petit animal.
Les compagnies d'électricité tentent de prévenir de telles situations en coupant les arbres le long des lignes ou en utilisant du câble isolé. Une autre idée est de confier la responsabilité d'initier les délestages préventifs à une commission incluant des responsables de la sécurité et des politiciens. Par ailleurs, et selon les experts, la production locale d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables pourrait dramatiquement réduire le besoin d'installer des lignes de haute tension.
Voilà, c'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Lionel Gaïman. À la présentation, Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous en compagnie de Henri Francisque pour un rappel des grands titres de l'actualité dans le monde. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Vous êtes
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les